Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce samedi 18 juin, le gouvernement prévoit des coupes budgétaires plus sévères que prévues en prévision du budget présenté en octobre et accuse son prédécesseur d'en être responsable. La Commission européenne favorable à l'attribution d'un statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Vous entendrez les réactions du président Zelensky ainsi que celles plus surprenantes de Vladimir Poutine. Julian Assange va-t-il être extradé aux États-Unis ? Probablement, l'Australien fondateur de Wikileaks va en tout qu'à faire appel de cette décision du gouvernement britannique. Et enfin, la disparition d'un géant du cinéma français. L'acteur Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans. Retour sur sa vie, son œuvre à la fin de ce journal. Le nouveau gouvernement australien en prend ses marques et se prépare pour la présentation du budget d'ici 4 mois, ce sera en octobre. Après étude des comptes de l'État, eh bien, il se pourrait que des coupes budgétaires plus sévères que prévues soient annoncées. Le trésorier Jim Chalmers accuse l'ancien gouvernement Morrison de leur avoir légué des dépenses inutiles. Interrogé par nos confrères de Nine, Jason Clare, le ministre de l'Éducation, déclare qu'Anthony Albanese va tout faire pour respecter ses promesses électorales en termes d'économie, mais qu'il n'y aura pas d'autre choix que d'être impitoyable, on l'écoute.
Federal budget's in worse shape than most state budgets. And so what Jim's talking about there is, one, we've got to make sure when we hand down this new budget in October that we implement the commitments we took to the election. But we've also got to go through it line by line, find the waste, find the rorts. You made the point today, find areas of duplication where you might have two departments doing the same thing. To make sure that we're getting bang for buck, make sure that taxpayers are getting value for money.
Les restrictions sanitaires contre le Covid-19 encore un peu plus allégées dans le Victoria cette fois. À compter de vendredi prochain 23h59, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur des aéroports. Annonce faite par le ministre de la Santé victorien, Martin Foley. Le port du masque est toujours obligatoire dans les établissements de santé, les transports en commun, les taxis et durant le vol dans les avions. Autre évolution, les personnes testées positives doivent toujours s'isoler 7 jours, mais ont le droit désormais de sortir en voiture si elles restent à l'intérieur du véhicule pour conduire les enfants à l'école, par exemple. Le Premier ministre australien Anthony Albanese réitère sa promesse d'investir davantage dans les énergies renouvelables à l'avenir. Des paroles prononcées lors d'un forum des grandes économies mondiales organisé virtuellement par le président américain Joe Biden, qui plaide pour une sécurité énergétique fiable et de long terme, je cite, à cause de l'attaque brutale et non provoquée de la Russie contre sa voisine l'Ukraine, fin de citation. Lui n'était pas convié à ce sommet sur l'énergie et le climat, mais il organisait son propre sommet de son côté. Lui, c'est Vladimir Poutine. Lors de son discours au forum de Saint-Pétersbourg, une sorte de Davos russe, il a nié toute responsabilité dans la crise économique mondiale et en a profité pour fustiger l'Occident et ses sanctions. On écoute le président russe.
Je l'ai déjà dit, le blitzkrieg économique contre la Russie n'a jamais la moindre chance de succès. Dans le même temps, les armes que sont ces sanctions et la pratique de ces dernières années le montrent bien. Ils sont à double tranchant. Elles infligent des dommages comparables, voire plus importants à ceux qui les ont imaginés et mis en place. Et il ne s'agit pas seulement des conséquences évidentes d'aujourd'hui. Nous savons que parmi les dirigeants des pays européens, il y a des conversations informelles au cours desquelles on discute de perspectives très inquiétantes du fait que des sanctions peuvent être appliquées non seulement contre la Russie, mais aussi contre tout État devenu indésirable. Cela peut toucher tout le monde, y compris les membres de l'Union européenne eux-mêmes, y compris les entreprises européennes. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé, mais en attendant, les responsables politiques européens ont déjà porté un coup sérieux à leur propre économie et ils l'ont fait de leurs propres mains. Nous constatons que les problèmes économiques et sociaux en Europe et aux États-Unis se sont aggravés, que le coût des biens, de la nourriture, de l'électricité et du carburant automobile augmente, que la qualité de vie des Européens baisse et que la compétitivité des entreprises diminue.
Vladimir Poutine, président russe. Et maintenant à Moscou, la correspondance d'Anissa El-Jabri pour Radio France Internationale.
Les sanctions occidentales, encore une fois, Vladimir Poutine les a qualifiées de folles et insensées. Et encore une fois, le président russe l'a en même temps assuré. Elles n'ont pas aujourd'hui et n'auront pas dans le futur de véritable impact sur l'état de l'économie du pays. Vladimir Poutine qui ne se juge ni responsable ni coupable des difficultés économiques mondiales, encore moins de l'inflation et surtout pas celle de l'énergie. Nous entendons tous parler d'une prétendue inflation de Poutine, a-t-il dit. Nos actions pour libérer le Donbass n'ont rien à voir avec ça. Fin de citation. Plutôt tout à voir, selon lui, avec les erreurs, je cite, systémiques de l'administration américaine et de la bureaucratie européenne. Un discours général sur l'orientation de la politique économique, engagement à revenir à une inflation à 4%, hausse de certains minima sociaux qui tranchaient avec ceux tenus habituellement dans ce rendez-vous des investisseurs. Il faut dire que cette année, ils étaient beaucoup moins nombreux que d'habitude. Sanctions obligent. Certains hommes d'affaires avaient même explicitement demandé que leur nom ne figure pas sur le badge d'accès.
Vladimir Poutine qui a également réagi à la décision de la Commission européenne d'attribuer le statut de candidat à l'Union européenne à l'Ukraine. « Pas de problème, dit-il, nous n'avons rien contre. C'est leur décision souveraine d'adhérer à des unions économiques ou pas. L'UE n'est pas une alliance militaire à la différence de l'OTAN. » L'Ukraine avait demandé son adhésion fin février, quelques jours après le début de la guerre. On écoute la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suivie du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
« In the view of the Commission, Ukraine has clearly demonstrated the country's aspiration and the country's determination to live up to European values and standards.
Ukrainians, defenders, now we are only one step away from fully-fledged integration into the EU. We have a positive assessment from the European Commission concerning candidate status for Ukraine, and it is a historic achievement for all who work for our country.
Voilà pour les réactions de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Alors, un statut de candidat ne signifie pas une adhésion prochaine, toutefois. Le processus est très long et il faut que les 27 votent à l'unanimité, ce qui est loin d'être garanti pour le moment. Avant de clore cette page largement consacrée aux dernières actualités concernant l'invasion russe, eh bien, on apprend que les autorités ukrainiennes ont mis en place un régime de visa pour les citoyens russes. C'est la première fois depuis 1991 et l'indépendance de l'Ukraine, que les citoyens russes ne peuvent plus s'y déplacer librement. Romain Lemaresquier, RFI.
Cela peut paraître surprenant, mais malgré le conflit qui oppose Ukrainiens et Russes depuis le 24 février dernier, les autorités ukrainiennes n'avaient toujours pas pris de mesures concernant l'entrée sur son territoire de citoyens russes. Mais désormais, à compter du 1er juillet, les Russes devront obtenir un visa pour se rendre en Ukraine, un pays avec lequel ils partagent près de 2300 km de frontières, une première dans l'histoire entre ces deux pays. L'objectif est de contrer les menaces sans précédent à la sécurité nationale, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale, détaille le président ukrainien sur les réseaux sociaux. Si depuis le début de la pandémie de coronavirus, le nombre de Russes voyageant en Ukraine avait fortement chuté, auparavant, ils étaient plus de 1,5 million à franchir chaque année cette frontière. Il faut rappeler que de nombreuses familles russes et ukrainiennes ont des liens familiaux, ce qui explique ce chiffre. Est-ce que ce changement de traitement peut avoir une incidence pour les Russes exilés en Ukraine? Pour l'instant, les autorités ukrainiennes n'ont pas donné de précision, sachant que fin janvier 2022, avant le début du conflit, près de 175 000 Russes bénéficiaient d'un titre de séjour en Ukraine, parmi lesquels de nombreux exilés.
Dans le reste de l'actualité internationale, Londres a confirmé l'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks détenu depuis 3 ans dans une prison anglaise. L'Australien de 50 ans est poursuivi aux États-Unis pour avoir fait fuiter massivement des documents confidentiels. Ses avocats vont faire appel. On écoute l'un d'eux qui exhorte le gouvernement australien à agir.
This is an Australian citizen who faces over 170 years in jail for revealing war crimes. And there's a great deal of this, certainly a number of Australians who take the view that this ought not to happen, including prominent journalists in this country. The Australian government can say to its close allies in London and Washington that it wants an end to a case which has gone on far too long.
Et quant à son épouse Stella, elle a laissé éclater sa colère. Écoutez.
Nous redoublons de détermination à chaque décision qui caricature la justice. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que ça fait de voir les procédures britanniques instrumentalisées pour prolonger les souffrances de Julian encore et encore. Il devrait être libre, tout le monde le sait. Le Royaume-Uni ne devrait pas faire ça, ne devrait pas se laisser entraîner par un pays assoiffé de revanche. Julian n'a rien fait de mal. Il a fait ce que tout journaliste qui se respecte aurait fait en ayant connaissance de preuves de crimes d'État. Le devoir de Julian envers le public l'a fait atterrir en prison il y a plus de 3 ans.
C'est un privilège extraordinaire d'être acteur et de pouvoir rencontrer comme ça des gens formidables. Et en plus, d'être payé pour ça, c'est vraiment un cadeau. Un acteur, c'est pas du tout un créateur. Un acteur, c'est un instrument, quoi. On fait du cinéma sans acteur, on n'est pas arrivé à faire du théâtre sans acteur.
Vous l'avez sans doute reconnu par sa voix, cette voix si emblématique, mastodonte du 7e art. Jean-Louis Trintignant est décédé, l'acteur avait 91 ans. On revient sur sa vie semée de drames et sa carrière hors du commun.
On reconnaissait Jean-Louis Trintignant rien qu'à sa voix. Une voix enveloppante, voire magnétique, portée par une diction parfaite et allant de pair avec un regard perçant et mélancolique. Avec le succès planétaire en 1966 d'Un homme et une femme, Palme d'or à Cannes, Jean-Louis Trintignant, alors trentenaire, devient un comédien très demandé. À l'instar d'un Delon ou d'un Belmondo, il tournera dans quelques 120 longs métrages. Mais c'est dans la composition de personnages ambigus, voire inquiétants, qu'il impose. Pose sa différence. Dans Le conformiste de Bernardo Bertolucci, il incarne un fasciste italien. Dans L'homme qui ment d'Alain Robbe-Grillet, un mystérieux étranger. À partir des années 80, cet anticonformiste privilégie le théâtre. Mais le meurtre de sa fille Marie, tuée en 2003 par Bertrand Cantat, l'éloigne des plateaux de cinéma. Jean-Louis Trintignant surprend en revenant devant la caméra de Michael Haneke pour Amour, dans lequel il joue un octogénaire confronté à l'agonie de sa femme. Le film remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2012. Jean-Louis Trintignant tournera encore sous la direction d'Haneke, montera sur scène pour un spectacle de lecture de poèmes, jusqu'à son dernier rôle en 2019, Les plus belles années d'une vie, la suite d'Un homme et une femme, 53 ans après.
C'était un portrait signé Sophie Torlotin pour Radio France Internationale. Il est 13h et presque 14 minutes sur SBS French. Un point sur la météo de cet après-midi. Il y a des averses à Perth, comptées 18 degrés, du soleil à Adélaïde, 18 degrés également, des nuages à Melbourne, 15 degrés, 13 degrés à Hobart avec quelques éclaircies, nuageux à Canberra, 15 degrés, pareil à Sydney mais un petit peu plus chaud, 19 degrés, nuageux également à Brisbane, 23 degrés, 27 degrés à Cairns, et Darwin, du soleil et 33 degrés. Le rappel des titres. Le gouvernement prévoit des coupes budgétaires plus sévères que prévues en prévision du budget présenté en octobre. Il accuse son prédécesseur d'en être responsable. La Commission européenne favorable à l'attribution d'un statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Le gouvernement britannique annonce l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Ses avocats vont faire appel. Et enfin, la disparition d'un géant du cinéma français. Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.